Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.
Ah, mais dis donc, c'est super. Moi, j'aime bien être ici. Finalement, la France, c'est pas si mal. Hein? On est bien chez soi. Bon, je reviens des États-Unis. C'était un voyage merveilleux. Le Seigneur m'a richement béni avec mon frère Marc et les amis qui étaient là-bas, avec Kylian aussi. Je crois, normalement, Dieu voulant, que nous aurons la famille Crosa dimanche prochain pour des baptêmes. Ah, oh, les deux enfants. Ils veulent se faire baptiser. Ils sont tout feu, tout flamme, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Là, ce matin, c'est un peu spécial. Comme j'étais dans l'avion, j'ai médité, vous savez, hier j'ai pris 3 avions seulement. Alors voilà, donc j'avais le temps entre les avions et puis dans les avions de réfléchir, de méditer, de prier. J'avais un gros monsieur à côté de moi, un autre gros monsieur, j'étais tout serré, surtout entre... l'Amérique est ici, sur l'océan, et puis j'ai prié et je me suis dit, je crois que c'est le moment que je vous dise des choses que le Seigneur m'a dites le 30 janvier de cette année. J'avais quelques pudeurs à vous le dire, mais je vais vous le dire maintenant parce que je ressens que c'est le moment où il faut le faire. J'étais donc à Saria, chez Sœur Suzanne, la prophétesse que vous connaissez tous, qui est venue, qui s'est tenue sur cette même estrade et qui a prophétisé sur presque chacun d'entre vous. Et là aussi, elle a prophétisé sur moi et voilà ce qu'elle m'a dit. Et ça m'a fortifié, mais en même temps, ça met de nouveau encore un peu... Vous savez, prenez mon joug, il est doux et léger, c'est vrai, mais c'est quand même un joug. Mais je veux partager avec vous les choses que le Seigneur m'a données, afin que vous puissiez vous réjouir aussi, et puis voir dans quelle position nous sommes dans ce temps-ci. Parce que de plus je vais, plus je m'aperçois, frères et sœurs, que Dieu parle par ses serviteurs, et il a toujours fait comme ça. Et il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui, dans notre siècle, dans notre temps, dans notre dispensation du septième âge de l'Église, et alors que nous sommes sortis de l'Église, tel que l'Apocalypse nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ces mauvaises œuvres, il n'y a aucune raison pour que Dieu ne parle pas. Dieu parle encore. Vous croyez ça? Moi, je crois. Et je crois qu'il parle pas seulement par la Bible. Alors, je sais, les évangéliques vont crier au secours, mais je crois que Dieu parle directement. Il a des choses à nous dire à nous, pour que nous sachions dans quelle position nous sommes. Bien sûr, ces choses qu'il dit doivent être dans la Bible. Si elles sont en contrariété avec la Bible, ça ne va pas. C'est que c'est un esprit séducteur. Mais Dieu a des choses à dire. Par exemple, quand il a parlé à Noé, il n'y avait aucun texte qui parlait d'arche. Quand il a parlé à Moïse, c'était tout à fait nouveau, cette histoire de sortir d'Israël. Enfin, il y avait eu des prophéties qui annonçaient ça avant. Il n'y avait pas d'écrit, c'était une tradition orale. Et je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous dire ce que nous avons à faire, nous, et comment nous devons le faire, nous. Croyez-vous ça? Je crois que Dieu ne se sert pas simplement de moi pour prendre un texte de la Bible et puis le commenter, puis voilà, puis c'est tout, puis le dimanche prochain je reviens, puis je reprends un texte des vieux prophètes et puis je le commente. Ça, c'est pas être serviteur de Dieu. Ça, c'est être animateur de supermarché. On peut être plus ou moins bon animateur de supermarché pour dire plus ou moins bien les commentaires de la Bible, mais je crois que ce que Dieu veut, c'est nous donner l'inspiration pour le moment, pour le temps où nous vivons. Moi, je crois ça. Et donc, voilà pourquoi je vais vous dire ce que la sœur Suzanne de Saria m'a dit, la prophétesse là-bas. Déjà, premièrement, elle m'a dit que Dieu m'appelle fils de l'homme et que je dois me tenir debout. C'est-à-dire que je dois prendre... Moi, je comprends ce que ça veut dire dans mon cœur. Je dois me tenir debout, c'est-à-dire que je dois être actif et je dois être en face des choses. Ce qui est en face de moi, ça tombe, ça passe ou ça casse, mais ça, je dois tenir debout. Et je dois passer à travers les choses. Et on passe avec moi ou on passe pas. Mais je dois me tenir debout. Je ne dois pas être assis et dire pouf, comme j'ai fait depuis les années où il y a eu la chute, vous savez, de ce qui s'est passé, en particulier à Hermanche. Elle m'a donné un texte dans 1 Rois 4:1-6. Et je vous le lis. 1 Rois 4. Voilà, Salomon était roi sur tout Israël. Elle me dit, oui, vous pouvez vous lever, oui. Elle me dit, ce qu'il faut que tu réalises, c'est que dans ta communauté, tu es roi, c'est-à-dire l'autorité. Et il faut que tu le réalises, il faut que tu le rendes réel. C'est pas simplement quelque chose qu'on dit, mais c'est quelque chose qui doit être réel. Alors, roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service, c'est-à-dire... Il y avait des chefs, mais ils étaient à son service. Alors, vous avez toute la liste. Azaria, fils du sacrificateur, etc., 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 etc. Alors, chef des intendants, ça, toute la liste, vous verrez ça. Préposé sur les impôts, voilà. Ensuite, verset 7, Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Voici leurs noms, alors les noms de tous ces gens-là. Ensuite, elle me dit, quand tu auras pris conscience de ça, et que tes frères et sœurs auront pris conscience de ça, alors la promesse pour toi, c'est 1 roi 5, 4, Dieu te donnera du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. C'est fort. Mais une condition, c'est une unité. Pas une unité dite, mais une unité réelle. Et c'est ce que je vais vous annoncer ce matin. Ensuite, dans Ézéchiel 1.1, elle me dit... Enfin, tout ça, ça a duré longtemps. Là, j'ai juste pris des notes pendant qu'elle me parlait, afin de les partager avec vous. Mais elle a parlé longtemps, et si vous voulez, on pourra encore en parler hors micro pour les détails de ces choses. Ézéchiel 1.1, c'est... La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Et elle me dit, voilà, sur toi, les cieux sont ouverts. Ne t'occupe pas des choses de la terre, car quand le ciel s'ouvre, les choses de la terre s'ouvrent aussi. Donc il faut que je m'occupe des choses... du ciel, des révélations, des visions. Là, il dit, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines au sujet d'Ézéchiel. Et c'est ce qui m'arrive. Voilà, le ciel est ouvert pour toi. Ne t'occupe pas des choses de la terre. Fais-toi pas de soucis pour ça. Parce que quand les choses du ciel s'ouvrent, elles s'ouvrent aussi. Les choses de la terre s'ouvrent aussi. Maintenant, elle dit, le fait que tu auras du repos de toutes parts ne veut pas dire que tu n'auras pas d'ennemis. Mais ça veut dire que ceux qui chercheront à t'humilier ne pourront pas te salir. Ça veut dire qu'il y en a qui vont essayer. Bon, il y en a toujours eu qui ont essayé. Mais enfin, ils ne pourront pas. Elle me dit, alors qu'elle n'est pas du tout au courant de mes messages, de mes prédications, des séminaires que je tiens, elle ne sait pas, elle ne les a jamais entendus. Elle me dit, je veux, ainsi te dit le Seigneur, je veux que tu publies le message des quatre êtres vivants. Comment elle peut deviner une chose comme ça? Elle répète, le ciel est ouvert pour toi, mais quand le ciel est ouvert, il y a les deux choses. Ça veut dire que de l'autre côté, en dessous de toi, il y a aussi un monde qui s'ouvre, un monde de ténèbres. Et elle me dit, sans savoir ce que ça veut dire, évidemment, parce que c'est par l'esprit qu'elle me parle, mais au-dessous de toi s'ouvre le monde d'Iram. Ah bon ? Le monde d'Iram. Alors, dans la Bible, il y a deux Hiram, j'ai cherché, il y a deux Hiram. C'est tous les deux des rois de Tyr. Ça vous dit quelque chose, roi de Tyr? Hein? C'est le type de Satan. Et puis, j'ai fait des recherches, et voilà ce que j'ai trouvé. Les clés d'Hiram. Les pharaons, les francs-maçons, à la découverte des manuscrits secrets de Jésus, etc., etc., etc. Tout ça, ça s'ouvre sous nous, sous moi en particulier, mais si vous êtes unis à moi, c'est un monde de ténèbres aussi qui s'attaquera à vous et qui essaiera de vous déstabiliser, de vous faire quitter votre position en Jésus-Christ. Et c'est pas un petit monde rigolo, c'est pas les pentecôtistes qui disent du mal de moi, c'est pas le frère machin avec sa vieille Mercedes pourrie là-bas dans le fin fond du désert qui dit du mal de moi, ça n'a rien à voir. C'est un monde grave. Voilà pourquoi nous devons être sérieux dans ce que nous avons à faire. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Si vous voulez, je vous donnerai les références de ce qu'elle m'a dit. Elle n'est absolument pas au courant de mes recherches, de ce que le ciel s'ouvre et Dieu me parle et j'ai des révélations et Dieu me montre des choses et me conduit à certaines lectures et j'en parle, ça en fait rire certains et d'autres prennent ça plus ou moins au sérieux. D'autres écoutent distraitement, d'autres sont plus sérieux dans ces choses et écoutent avec plus d'attention. Mais je vous le dis, il faut que nous soyons un seul cœur, une seule âme. On ne peut pas se permettre de jouer aux chrétiens. Il faut vraiment être ce que la Bible dit que nous devons être. Dans la première église à Jérusalem, ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils n'avaient pas seulement tout vendu et mis tout ensemble, mais ils étaient vraiment un seul cœur, une seule âme. Et voilà ce que le Seigneur m'a inspiré alors que j'étais en avion, là, pour rentrer des États-Unis pour vous, pour nous tous ensemble. Parce que je suis certain que si nous sommes unis dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'Évangile, si nous sommes unis dans l'Évangile, alors nous serons prêts à recevoir les plus grandes bénédictions des cieux. Tout ça, c'est en réserve pour nous, mais il faut que nous soyons unis dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Et il faut qu'on soit unis là-dedans. Quelle bonne nouvelle. Je vais développer ça ce matin pour vous aider, pour vous bénir. Frères et sœurs, je suis un peu comme dans un état un peu prophétique là. Je ne suis pas tout à fait... J'ai même le souffle court. Dans la communauté de Jésus-Christ, il ne doit pas y avoir de place pour les querelles, pour les doutes et pour l'opposition. Il ne doit pas. Il ne doit pas. On doit considérer ceci. L'œuvre vient de Dieu. Ce que nous vivons, ça vient de Dieu. C'est saint. Ça vient de Dieu, un point c'est tout. C'est-à-dire que même les petites contrariétés, les petites choses, les choses qui vous embêtent, les choses que vous n'aimez pas faire, dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des choses comme ça. Eh bien, c'est l'œuvre de Dieu quand même. Et le frère et la sœur un peu pénibles, c'est l'œuvre de Dieu pour nous aider à apprendre la patience et toutes ces choses. Et il faut bénir, bénir, bénir. Et avoir cet esprit de soumission parce que nous savons que c'est Dieu qui conduit. Nous savons que c'est Dieu qui dirige. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'autorité qui a été placée dans cette église, dans cette communauté, elle a été désignée correctement. Mes frères et sœurs, je vous le rappelle, confirmée par des miracles. Qui peut dire des choses comme ça aujourd'hui, au XXe siècle? Peu d'églises. Peu d'églises. Nous avons été dirigés comme le peuple d'Israël d'une façon tout à fait miraculeuse pour sortir. Vous êtes environnés là. C'est vitraux représentent les âges et vous êtes sortis de ça parce que vous avez été conduits. Parce que vous avez été conduits. Rappelez-vous comment ça a commencé, par une prophétie de ma mère, Madeleine. Tout ça, c'est des miracles. Nous n'avons pas été conduits parce que j'avais des lubies. Nous avons été conduits par des miracles, par des paroles de connaissance, par des prophéties qui ont été confirmées. Ensuite, il y a eu des guérisons pour confirmer que la parole qui était prononcée était vraie. Ce ministère, il a été placé correctement. Il n'y a pas de succession apostolique, c'est-à-dire il y a eu les apôtres, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et il y a chaque serviteur de Dieu doit faire ce qu'il a à faire, et moi j'ai à faire ce que j'ai à faire, et je n'ai pas à avoir d'imposition des mains de l'un ou de l'autre pour pouvoir être quelque chose ou quelqu'un. Mais reconnaissez quand même qu'il y a une suite dans notre histoire qui est très bizarre, très belle. Regardez avec qui je me suis converti, avec qui j'ai été mis en contact par la suite, comment par prophétie nous avons été guidés vers le prophète, comment ces choses sont parvenues jusqu'à nos cœurs et comment le Saint-Esprit nous a montré les pierres qui brillent sur la montagne. Vous vous rappelez de la vision de Jackson? Comment Dieu nous a révélé ces choses? Quelques-uns nous ont quittés à cause de ça. Bon, que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Nous, nous devons être fidèles et ne pas nous amuser avec ça, ne pas être lâches avec ça, être sérieux avec ça. L'œuvre, elle est de Dieu. Et le ministère que nous avons ici, c'est un ministère qui est dans l'amour et pour l'amour. Ce n'est pas un ministère de condamnation, bien qu'il y a une condamnation. Nous ne prêchons pas un évangile sympa. C'est vrai qu'il y aura une condamnation. Mais nous, nous ne condamnons pas. Nous aimons, nous bénissons. Et nous sommes appelés à cela. Alors l'unité dans la communauté, elle doit commencer dans les familles. Dans les familles. Unis en famille, déjà premièrement. Votre mari, votre femme, vos enfants. Et je vais aller plus loin parce que je sais qu'il y a des célibataires parmi nous. Vous allez écouter bien. Déjà les célibataires, vous avez, ça n'est pas un interdit d'être unis entre vous, de faire des choses entre vous aussi. Et avec les familles, mais tout ça dans un bon ordre. Pas charnellement, mais dans un bon ordre. L'unité, elle est un ordre de Dieu. C'est pas une option, c'est pas « Ah ben oui, je suis uni avec un tel parce que je suis un crochu ». Non, nous sommes unis. C'est un ordre. C'est comme « aime ton prochain comme toi-même ». Tu dois. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est tout. On ne discute pas ça. Hein, Marc, quand on est à l'armée, on ne discute pas un ordre. Eh ben, dans l'armée du roi des rois, on ne discute pas l'ordre non plus. Si je dois aimer, ben j'aime, voilà. Comment je vais faire? Eh ben, compte sur le Saint-Esprit de Dieu pour t'aider. Sois un homme, soit une femme spirituelle. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Pour ce qui est des responsabilités dans la communauté, il ne faut pas que ça soit comme dans le monde. Dans le monde, il y a des petits chefs de rayon, et puis, en dessous, voilà, Jésus dit, c'est pas comme ça. Jésus dit, c'est pas comme ça. Celui qui est le plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand. Il faut que ça soit pris comme des responsabilités spirituelles et temporelles. Elles ne sont pas que temporelles. Elles sont spirituelles avant tout. Alors, il y a des gens qui ont plus de responsabilités spirituelles. J'ai beaucoup plus de responsabilités spirituelles que, par exemple, Michou, qui en a plus au sujet du temporel, c'est-à-dire de la gestion, etc., ou d'autres qui ont des responsabilités dans la communauté de ceci, de cela, mais c'est spirituel d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Selon l'esprit. Selon l'esprit, ça veut dire quoi? Selon la vie et la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire spirituel. On ne sait plus ce que ça veut dire maintenant. Mais spirituel à tous les mots. Être spirituel, c'est être selon la vie et la volonté de Dieu. C'est comme ça. Ces responsabilités, elles reviennent, pas au chef, mais elles reviennent à ceux qui sont serviteurs. Il faut que chacun d'entre nous comprenions que nous sommes serviteurs. Ces responsabilités, elles ne viennent pas à ceux qui aiment le pouvoir. Si vous aimez le pouvoir, si vous voyez que vous prenez du plaisir à exercer un pouvoir, vous êtes charnel. Mettez-vous sur vos genoux, priez le Seigneur qu'il vous donne un esprit d'humilité afin que vous soyez des vrais serviteurs. Et chacun, nous sommes responsables de quelque chose. Vous allez voir. Ne pensez pas, oh, moi, j'ai aucune responsabilité, je suis là, je paye ma dîme et tout ça. Non, attendez. Les responsabilités, elles sont vécues dans l'amour divin, en pensant toujours que Jésus nous regarde exerçant notre autorité. Alors au sanctuaire, c'est l'œuvre de Dieu, un point c'est tout. C'est l'œuvre de Dieu, un point c'est tout. C'est pas l'œuvre de Michel Janton, c'est pas l'œuvre de Monsieur Machin, c'est pas l'œuvre de Madame Machin, c'est l'œuvre de Dieu. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire au nom du Seigneur Jésus-Christ avec de l'amertume dans le cœur. Ce n'est pas vrai. Si vous faites les choses et que vous dites « je l'ai fait au nom de Jésus » que c'est juste une parole, allez sur vos genoux et dites « Seigneur, donne-moi un esprit d'humilité, enlève l'amertume de mon cœur. » C'est que Dieu qui peut faire ça, parce que c'est l'œuvre de Dieu ici. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire une bonne parole gentille que vous allez être délivré de votre amertume. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut le faire. Alors bien sûr que c'est bien d'aller exhorter les frères et sœurs, mais ça suffit pas. Il faut que le frère ou la sœur qui est amer se mette à genoux et invoque le nom de Jésus sur sa vie pour être délivré, afin d'être un serviteur digne. Frères et sœurs, on ne vit pas simplement parce que, en communauté parce que c'est bonnard, comme on dit en Suisse. Ça veut dire bonnard, ça veut dire, oh, c'est sympa, c'est chouette. Non, c'est pas bonnard, non, c'est pas chouette. Bien sûr que c'est bonnard et c'est chouette, mais c'est pas pour ça qu'on vit en communauté. Un message nous a été donné. Un message. Dieu nous en a donné un peu, et puis voyant que nous avons été fidèles, il nous en a donné un peu plus. Et voyant que nous avons été fidèles, il nous en a donné un peu plus. Et chaque fois qu'il nous en a donné, certains nous ont quittés. Certains nous ont quittés. Mais maintenant, vous pouvez être présent géographiquement, mais loin en esprit. Nous avons un message. Et je veux. Là, je ne vous demande pas. Non. Je veux que ce message soit connu du monde entier. Alors, on a Internet, on a refait le site, c'est de plus en plus beau. On a des livres, c'est super. Mais on ne fait pas que de prêcher comme ça. On va aussi dans les endroits. On va dans le monde, on va à gauche, on va à droite. Et je vais y aller encore de plus en plus. Et je vous dis déjà maintenant, je vais aller au Burkina, en Côte d'Ivoire, cette année, en fin août. Ensuite, je vais en Angleterre. Après, je retourne aux États-Unis au mois d'octobre, etc., etc., etc. Et de plus en plus. Et je veux que vous aussi. C'est pas, voilà, si ça vous plaît, tout. Non, c'est aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui ou non? Alors, je veux que vous alliez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je veux! Ça, c'est la volonté de Dieu. Et je vous dis la volonté de Dieu. C'est pas, ah, moi j'ai peur de l'avion, ah, moi je suis trop vieux, ah, moi je suis trop jeune, ah, moi j'ai pas d'argent, ah, mais comment veux-tu? Je veux! Si tu veux comme Dieu veut, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour faire les choses. Je suis rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, quand je vous dis ça. Ce message que Dieu nous a donné, c'est un message qui a une valeur immense pour toutes les familles humaines. Pour toutes les familles humaines, frères et sœurs. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On est 40 pelés, là, rien du tout, mieux de la brousse. Oui, eh bien, Israël, c'était rien du tout à comparer de Rome, ou de la Perse, ou de Babylone. C'était rien. Les gens disaient, ha, ha, ha. Eh bien, c'est à eux que Dieu avait donné. Et c'est à nous que Dieu a donné. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien donné aux autres. Mais occupons-nous de ce que Dieu nous a donné à nous. Et soyons sérieux avec ce que Dieu nous a donné. Ce message, il est rempli, ce message que nous avons reçu, il est rempli de promesses du salut pour tous ceux qui voudront y obéir. L'évangile, ce message est un message de vie pour quiconque voudra le recevoir, mais de mort aussi pour quiconque ne voudra pas le recevoir. Vous êtes chargés de cela. De porter ce message. Mais on ne sait pas prêcher. Ta 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 ta. Dieu choisit justement des gens qui ne savent pas prêcher. Moïse ne savait rien dire. Il bégayait. Eh bien, Dieu a choisi Moïse. Et si vous dites je ne peux pas, c'est bon signe. Parce que Dieu donne son autorité à ceux qui n'aiment pas prendre autorité. En fait, ce que Jésus veut, c'est que nous soyons un. Mais ce n'est pas simplement. Une parole, ça signifie que si nous ne sommes pas un, des fois quand on prêche par l'absurde ou par la négation, on comprend mieux. Ça veut dire que si nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas de lui. C'est beaucoup plus clair comme ça. Hein? Le monde n'est pas un. Voilà pourquoi il va à sa perte. Dieu est un. C'est la première chose que Dieu nous a révélée en particulier à nous autres ici au sanctuaire. Et nous ne sommes pas de ce monde. Nous, je vais vous dire de quel monde nous sommes. Nous sommes du monde de Adam, Enoch, Moïse, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. C'est une lignée, c'est une chaîne, c'est une continuité. C'est une famille, c'est une descendance. Nous ne sommes pas de la famille du serpent. Nous sommes de la famille de Seth. Adam, Seth, etc., etc., etc. Nous sommes de cette famille-là. Nous sommes des descendants. Nous venons de là. Tout homme, toute femme, ça vient de Ève, pas de Adam. Nous venons d'Adam. Vous savez ça? Nulle part dans la Bible, il est écrit que Adam est le père de tous. Non. Mais dans la Bible, il est écrit que tout le monde vient d'Ève. Mais nous venons de Adam. Adam et Ève, ils ont eu Abel et ils ont eu Seth. Caïn n'était pas de Adam. Rappelez-vous de ça. Ceux qui ne veulent pas y croire, qui m'écoutent sur Internet, qui ne veulent pas y croire, c'est pas grave. Restez avec vos croyances. Restez avec vous. Nous vous aimons. Mais ça va être très difficile de suivre. Il arrive des moments où je vous dis, je vais passer la vitesse supérieure. Il faut suivre. Il faut suivre. Et on suit, non pas parce qu'on a une révélation, on suit parce qu'on acquiert une conviction. On travaille notre propre conviction. Oh, l'autre jour, j'étais avec un frère, il disait, oui, mais alors ça, voilà. Je dis, non, ne parle pas comme ça. Tu ne sais pas, alors étudie avant de te prononcer. Vous voyez, frères et sœurs? C'est une lignée. Et dans cette lignée, tous ces hommes, toutes ces femmes étaient obligés d'être un avec Dieu. D'écouter Dieu. C'était nécessaire qu'ils recherchent chacun d'entre eux, qu'ils recherchent le Seigneur. Il n'y a pas de Bible. Ils n'avaient pas de Bible. Adam avait-il une Bible? Noé avait-il une Bible? Abraham avait-il une Bible? Est-ce qu'il pouvait lire l'Apocalypse? Est-ce qu'il pouvait lire Jean? Est-ce que Jean pouvait lire l'Apocalypse? Non, il a fallu qu'il l'écrive. Mais il fallait écouter Dieu pour pouvoir le faire. Et maintenant, ces écrits, nous les avons. Mais si nous n'avons pas le même esprit que Jean avait, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est dedans. C'était nécessaire qu'ils recherchent le Seigneur. Et s'ils n'étaient pas en communion avec Dieu, eh bien, ils n'étaient pas en mesure de faire leur devoir. Il faut que vous soyez en communion avec Dieu pour être en mesure de faire votre devoir. Comment pouvons-nous savoir ce que nous avons, nous devons faire si nous ne sommes pas en communion avec Dieu? Simplement parce que Michel dit, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Non, c'est bien sûr pour les trucs temporels, mais pour les choses spirituelles. Il dépendait du Seigneur pour recevoir les révélations, de la lumière, des instructions. Il dépendait du Seigneur. Alors vous savez, cette union que le Seigneur exigeait des patriarches, que le Seigneur exigeait de ses prophètes, et que Jésus exigeait de ses apôtres, elle est exigée de tous les enfants de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. C'est la même chose. C'est une union que Dieu exige. Nous devons chercher la face de Dieu. Et on ne peut pas chercher la face de Dieu, être en unité avec lui, si on n'est pas en unité avec les frères et sœurs, parmi lesquels nous avons été placés. Vous ne pouvez pas. Rappelez-vous de ce frère qui nous dit, moi je ne peux pas être en communion avec les Chinois, ils sont trop loin de moi. Moi, je suis, j'aide mon prochain, celui qui est tout proche. C'est déjà bien d'être, mais bien sûr, on ne peut pas être en communion véritablement tant, pour les choses temporelles. Bien sûr, on peut envoyer notre dîme, on peut envoyer des habits au Burkina, faire des choses comme ça. Mais premièrement, c'est entre nous que nous devons être unis. Il avait raison, en quelque sorte. Cette unité, elle est exigée par Dieu depuis la fondation du monde. Dieu s'est fait un peuple. Il voulait qu'ils soient ensemble pour faire quelque chose, accomplir ce que Dieu voulait. Un jour, je vous ai dit, la révélation, elle vient aux prophètes. Et puis ensuite, le prophète, il la donne au peuple. Le peuple, ayant entendu, est appelé à acquérir une conviction. Chacun d'entre vous, vous devez aller sur vos genoux pour prier, pour demander au Saint-Esprit, au travers des Écritures, à venir me demander, à me parler, à chercher. Vous devez, c'est votre devoir, chercher, vous trouverez. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas, vous ne risquerez pas de trouver. Et Dieu ne vous révélera rien, parce que la révélation a déjà été donnée correctement par le ministère. Maintenant, c'est à vous de travailler ça, jusqu'à ce que vous puissiez acquérir une conviction Et vous devez le faire dans une entière soumission, dans le souci de l'unité. Dieu a donné les ministères pour que notre foi soit la même, que nous ayons tous la même foi. Avoir la même foi, ça veut dire avoir la même doctrine. C'est-à-dire la même connaissance des Écritures. En vue d'une même pratique pour les mêmes devoirs envers le même Dieu qui est un. Je me sens rempli là. Peut-être ça ne vous plaît pas. Je ne sais pas. Moi, je sais ce que je vous dis, ça vient de Dieu. Mais, si Dieu me révèle des lumières, si Dieu me révèle, me donne des inspirations, des révélations, son avis, sa volonté, mais que vous qui vous trouvez près de moi, là, dans la communauté locale, dans l'église locale, vous êtes trouvés endormis, comme les vierges sages d'ailleurs sont. Vous êtes des vierges, vous êtes sages, mais vous pouvez être endormis. Endormis, ça veut dire quoi? Endormis quant à vos devoirs. C'est ça que ça veut dire. Et que vous n'êtes pas en état de recevoir ces lumières, recevoir ces révélations, recevoir ces choses, eh bien, le fleuve est bloqué à la source. C'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que pchit, comme dirait Chirac. Il n'y a pas de courant, ou si vous voulez, il n'y a pas de canot par lequel la lumière peut se répandre ailleurs. Ça sort de moi, ça vient sur vous, mais de vous, ça doit aller ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Toujours quelqu'un me dit, « Oh, pour toi, avec 40 personnes. » Quoi, 40 personnes? Des milliers ont été sauvés au travers de notre ministère. Des milliers. Des dizaines d'églises ont été construites au travers de notre ministère. 125 millions de personnes ont été baptisées au travers de notre ministère. Ah oui, c'est vrai, disait-il. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes unis là-dedans? Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est mon devoir de me présenter avec humilité et foi devant Dieu afin d'obtenir les bénédictions qui sont prêtes pour vous. Ça, c'est mon devoir. Ça, c'est mon travail, c'est mon devoir, c'est ma vocation, c'est mon appel. La lumière, la connaissance, la foi, l'intelligence, la puissance qui nous est nécessaire. Nécessaire, pourquoi? Pour notre propre salut et celui de nos familles. Déjà, premièrement, celui qui n'est pas fidèle vers sa famille est pire qu'un renégat. C'est qui le dit? C'est pas moi, c'est la Bible. Alors, avec humilité, avec obéissance, avec soumission, mettons-nous au diapason pour obéir à la parole de Dieu. Mon travail consiste à boire la parole de Dieu. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Alors, souvent, il y en a qui me disent, « Oh, mais moi, tu comprends, je pars à 6h le matin, je rentre à 8h30, après, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, faut que je... » Mais c'est légitime et c'est normal, c'est la vie normale et Dieu ne vous en veut pas de ne pas consacrer tout le temps que moi, je peux consacrer. Mais moi, je suis appelé à consacrer mon temps pour ça, justement, pour aller boire à cette eau, à cette source. Voilà le pourquoi des ministères. Il y a 5 ministères de la parole. Vous avez d'autres ministères après. Le ministère aux tables, le ministère aux tables, ça veut dire pour la comptabilité. Le ministère au ceci, le ministère au cela, la cuisine et tous ces machins, c'est bien. Mais il y a 5 ministères de la parole et je suis un de ces 5 ministères. Mon travail donc consiste à boire à la source. Et Jésus dit, quiconque a soif, qui boive, et ensuite cette eau deviendra en lui une source qui jaillira de son sein jusque dans la vie éternelle. Ça jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce que je bois, ça jaillit. À vous de venir boire. C'est-à-dire, vous êtes là en train de boire. Là, en ce moment, vous êtes en train de boire. En ce moment, vous êtes en train de vous alimenter. Mais, qu'est-ce que vous allez faire avec? Il faut que ça jaillisse aussi de vous. Mais ça ne peut pas jaillir de vous si vous n'êtes pas soumis. Si vous dites, oh oui, non mais moi, Dieu ne m'a pas parlé. Oh non, moi, je n'ai pas la révélation que... Je... Allez par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle du salut. Ça, c'est pas ma volonté, c'est celle de Dieu. Alors, mais comme le Saint-Esprit est en moi, je vous dis, je veux que vous le fassiez. Je veux. C'est pas je désire, c'est une option. Si ça vous prend, non, je veux. Avec les talents que vous avez. Vous n'avez peut-être pas tous le même talent. Mais vous pouvez tous faire quelque chose. Ceux qui reviennent d'Afrique le savent, hein. On peut tous faire quelque chose. Et vous allez être bouleversés. Rappelez-vous dans l'évangile de Thomas. Ils seront bouleversés, vous vous rappelez? Ma prière est que Dieu vous rende disponible et non hésitant, vaillant et non murmurant et paresseux. Vous savez, lorsque ça sera arrivé, alors nous aurons tous un même sentiment et nous serons réellement un. Mais jusque-là, nous ne sommes pas encore un. Nous sommes en communauté, nous nous aimons, c'est bien, mais nous dormons quant à nos devoirs. Nous dormons quant à nos devoirs. Et c'est quand on est un qu'on commence à voir la position et la relation que nous avons les uns envers les autres et envers Dieu. Quand nous sommes un, tant que nous ne sommes pas un, nous nous cherchons. On ne sait pas. Suis-je la main, suis-je le pied, suis-je l'oreille? Je bricole de temps en temps et je travaille comme un pied parce qu'en fait je suis une main. Et alors chacun, à partir du moment où vous serez un, où vous aurez cet esprit de soumission disant, eh bien Seigneur, j'obéis. Quand vous serez comme ça, alors vous ressentirez l'importance de remplir vos responsabilités, vos devoirs. Et chacun sera désireux de faire le meilleur usage de ses talents. Mais ça sera un désir. Alors que maintenant, ça vous semble être peut-être même une contrainte. Et vous saurez faire le meilleur usage de ce qui est le plus précieux, votre temps. Votre temps. Le diable mange votre temps. Quand je dis le diable, c'est une façon de parler. Votre chair mange votre temps. Les petits démons qui vous entourent bouffent votre temps. Les gens que vous rencontrez bouffent votre temps. Un petit verre par-ci, un petit café par-ci, un petit machin par-là. Une petite discussion qui veut rien dire. Hein, ben, le temps passe, le temps passe. Et on n'est pas en train d'accomplir ce que Jésus veut. La principale chose, la bonne nouvelle doit être annoncée. Et frères et sœurs, si ce n'est pas par nous, ben mince alors. Et sans cela, très difficile d'obtenir la bénédiction que Jésus a pour nous. Très difficile. Alors voilà, si le peuple se montre endormi ou paresseux, s'il ne se montre pas digne des bénédictions, eh bien, le Seigneur va tout répandre sur la tête, c'est-à-dire sur l'autorité établie dans l'Église. Ça va descendre un peu. Ça va descendre un peu sur le corps, mais à un moment, ça va être bloqué. Bloqué. Est-ce que je vous dis là, c'est la même chose pour les familles. Si le père de famille dit à sa famille ce qui doit être fait et que il n'y a pas cet esprit de soumission au mari, soumission aux parents, eh ben ça bloque. Et quel témoignage porte cette famille? Et c'est la même chose dans les pays. Dieu a placé les hommes. Il y en a qui sont plus ou moins à l'écoute de Dieu. Nous devons prier pour les gouvernements afin que justement ces hommes et ces femmes écoutent Dieu. Mais si le peuple se rebelle, descend dans la rue et crie et fait n'importe quoi, comment voulez-vous gouverner un peuple comme ça? Comment voulez-vous que ce peuple soit la lumière du monde? Comment voulez-vous? Ah, la France, oui. Pays des Lumières. Eh ben mon Dieu, ça clignote vachement en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soumission aux autorités. Et le président n'a pas à vous supplier à genoux d'être soumis. Ça doit venir de vous. Alors, si vous voulez, c'est comme le cep. Vous vous rappelez le cep? Il y a les sarments, il y a les branches, il y a les brindilles, il y a tout ça. Mais Jean 15, 1 à 11, vous relirez tout ça. La sève ne commence pas dans les brindilles. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais non, j'ai qu'une brindille, j'ai rien du tout, j'ai pas grand chose. Arrête. Si tu es en soumission dans le corps de Christ, tu auras la même puissance, la même vie, absolument la même vie. Et c'est justement là au bout que viendra le fruit. C'est pas ailleurs. Cette parabole nous montre ce qui est juste, c'est-à-dire le principe de la justice. Il y a un principe pour la justice. C'est pas n'importe comment, c'est pas le foutoir, c'est pas. Il y a un ordre dans la justice. Est-ce que vous aimez ça? Vous me regardez avec des yeux tout ronds là. Je vous ai dit que c'est un message prophétique que je vous donne ce matin. C'est l'extension de ce que la sœur Suzanne de Saria m'a dit. En y pensant, en y réfléchissant, j'ai eu le temps depuis le mois de janvier. J'en avais parlé un peu à Michou et à Eric Jacques, et je ne sais plus à qui encore, mais. Cette parabole, elle nous montre le principe de la justice. Alors, c'est pas très simple. Ça demande une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas avoir une intelligence renouvelée dans le Saint-Esprit si vous n'êtes pas des gens qui allez sur vos genoux. On est appelé à faire la volonté de Dieu sur la terre, à accomplir ses desseins. Mais qu'est-ce que c'est son dessein aujourd'hui? De faire une arche pour faire entrer les veaux, les vaches et les cochons? C'est quoi son dessein aujourd'hui? Alors, pour accomplir son dessein, ça ne suffit pas d'être uni et d'agir comme un seul homme. Encore faut-il être rempli du Saint-Esprit. Et ça signifie être rempli de la vie, A-V-I-S, et de la volonté de Dieu à notre sujet. Autrefois, il y avait un journal en Suisse dans lequel mon père travaillait qui s'appelait « La feuille d'avis ». Eh bien, Dieu a un avis. C'est un journal qui sortait au quotidien. L'avis de Dieu d'il y a 30 ans, c'est plus la même chose. Dieu, c'est pas que Dieu a changé, mais le temps a changé, la dispensation est différente. Qu'est-ce que Dieu a à dire aujourd'hui? Est-ce que vous lisez la feuille d'avis? Nous devons aussi être gouvernés, dirigés par lui, selon l'ordre établi dans la communauté, dans son Église. Alors Babylone peut se diviser tant qu'elle veut, les habitants de la terre peuvent se diviser tant qu'ils veulent, ils récoltent les conséquences de leur mauvais système. Leur mauvais système. Mais nous ne pouvons que prospérer si nous sommes unis, selon les Écritures. Selon les Écritures. Entre nous, il ne faut plus qu'il n'y ait qu'une unité déclarée. Superficielle. Il faut qu'il y ait un ciment entre nous. Un réel ciment. Rappelez-vous. Le ciment de l'amour. Et tout ça pour une seule raison, celle d'accomplir le dessein de Dieu pour notre temps. Pour notre temps. Qu'est-ce que Dieu a à faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui? Alors, frères et sœurs, cette loi de l'union, elle est exigée. C'est une loi, comme la loi de la pesanteur et tout. C'est une loi. Si t'es pas dedans, ça veut dire que t'es dehors. Tu peux être dedans physiquement, géographiquement. Quand Israël est sorti d'Égypte, ben il y avait le Ramassis, sortait avec. Hein. Ils n'ont pas été dans le pays de la promesse. Ils étaient géographiquement présents, physiquement présents, mais pas en esprit. Les cieux sont fermés à toute organisation, à toute famille, à tout pays, à toute religion divisée. La bénédiction leur est refusée jusqu'à ce que ce mal soit extirpé. La division ne vient pas de Dieu. La division vient du fait qu'on ne veut pas se soumettre. Quelqu'un a dit, c'est Sarkozy, vous aimez la France ou vous la quittez. Ça va la même chose dans les familles. Ça va la même chose dans l'Église de Jésus-Christ. C'est dur. Mais oui, c'est pas un évangile de condamnation, mais il y a quand même une condamnation. Nous ne sommes pas là pour prêcher la condamnation, mais nous sommes là aussi quand même pour avertir. Attention, nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne sommes pas là parce que c'est dimanche et qu'il faut absolument qu'on soit là le dimanche. Puis après, on continue notre vie comme si le serviteur de Dieu avait rien dit. La bénédiction leur est refusée jusqu'à ce que le mal soit extirpé. Alors, nous ne pouvons prospérer que si nous sommes unis. Alors, on peut être unis sur certains points et puis pas sur certains autres. Et la Bible tolère que nous puissions marcher d'un même pas sur les points où nous sommes d'accord. D'accord, c'est vrai, c'est super, c'est bien. Mais frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer toute notre vie à avoir des désaccords. C'est en marchant d'un même pas là où nous sommes d'accord que nous apprenons à nous connaître mieux et à nous respecter davantage et à reconnaître qui a été placé comme autorité spirituelle et le croire afin de changer. Je ne parle pas de vos opinions. Je parle de doctrine. On n'a pas le droit d'avoir n'importe quelle doctrine. Les opinions, vous pouvez. Mais ça, c'est secondaire, c'est des choses, ça n'a rien à voir. Mais pour la doctrine, vous devez acquérir des convictions. Vraiment, frères et sœurs, vraiment. Nous avons beaucoup reçu. Nous avons donc une grande responsabilité. Et seuls les efforts unis des membres du corps de Christ dans cette dernière dispensation permettra la fin de l'édification de l'épouse et donc de la préparation de l'unité entre le royaume de Dieu dans le ciel et le royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi les ministères ont été donnés ? Pour que nous parvenions à l'unité de la foi. L'unité de la foi, ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, ce qu'on comprend de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a plein de choses là-dedans, et les choses qui concernent par exemple le baptême, quand elles sont mises ensemble, ça devient une doctrine. La doctrine du baptême, la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine de la guérison, la doctrine du salut. Et nous devons avoir une unité de la foi, c'est-à-dire une unité de doctrine. Pour vivre, pas pour dire « je sais ça, je connais ci, je connais ça, puis vous connaissez pas la même chose que moi ». Non, c'est pas ça. C'est pour pouvoir vivre, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir être la lumière du monde, pour pouvoir apporter cette bénédiction à toutes les familles de la terre. Voilà pourquoi nous devons... Mais les ministères ont été donnés pour que nous parvenions justement à cette unité de la foi. Ça n'a pas été donné juste pour vous amuser pendant un moment ou pour vous engueuler de temps en temps. On lira le texte tout à l'heure. Seuls les efforts unis des membres du corps de Christ dans cette dernière dispensation. Nous sommes dans la dernière dispensation. Nous sommes déjà sortis des sept âges de l'Église. Nous sommes sortis, nous sommes dehors. C'est la fin. Ça permettra, si nous faisons des efforts pour l'unité, alors ça permettra la fin de l'édification de l'épouse. Parce qu'elle doit parvenir à la stature parfaite. Ça veut dire que l'épouse, avant d'être l'épouse parfaite, elle est une épouse qui n'a pas la stature parfaite. Elle est parfaite, mais elle n'a pas la stature. Jésus-Christ ne va pas épouser une gamine, mais une femme, une épouse qui a la stature, la mûreté, la maturité. Parce qu'il faut que le royaume des cieux soit uni au royaume de la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Elle est faite dans son royaume. Et son royaume, c'est nous, pas que nous. Il y a des frères et sœurs partout. Partout. Et je le dis à vous qui écoutez Internet. Il y a des frères et sœurs dans toutes les dénominations. Mais nous ne sommes pas des dénominations. Et nous sommes des frères et sœurs. L'autre jour, j'ai rencontré une femme qui est d'une autre dénomination et nous nous sommes embrassés. J'ai dit, vous êtes réellement ma sœur. Elle avait les larmes aux yeux parce que c'est une dénomination qui était persécutée par les chrétiens évangéliques. Elle était bouleversée, elle était toute contente. C'était merveilleux et c'était très sincère. Et je vous l'ai toujours dit, je crois qu'il y a des enfants de Dieu chez les catholiques, chez les protestants, chez les baptistes, chez les pentecôtistes, chez les témoins de Jéhovah, chez les mormons, chez tous les gens qui se réclament du Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. N'est-ce pas la vérité? C'est la vérité. Allez trouver un pasteur qui vous dit des choses comme ça. Il faut vraiment que le ciel soit ouvert au-dessus de moi pour que je puisse vous dire des choses comme ça. Parce que jamais personne ne vous dira des choses comme ça. Si vous en trouvez un, présentez-le moi, comme ça j'aurai un copain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être uni? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire être uni? Eh bien, il y a quatre points. Enfin, j'en ai trouvé quatre parce que, bon, Mais je peux en trouver beaucoup plus, mais là j'ai trouvé quatre points, je pensais à ces quatre choses. Nous devons être unis dans notre doctrine. J'en ai déjà un peu parlé. Nous avons à être unis dans l'œuvre d'évangélisation des vivants. Nous avons à être unis dans notre œuvre de participation au rachat des morts. Ça, je sais que certains qui écoutent Internet vont être troublés. Allez chercher dans les écrits, vous allez trouver. Et quatrièmement, nous devons être unis, scellés dans l'amour. Unis dans la doctrine. Alors, Éphésiens, on va lire quand même. Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens 4, 11 à 16. C'est Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 5 ministères, ou certains disent 4 ministères parce qu'ils disent que pasteur et docteur c'est le même. Pour le perfectionnement des saints, vous êtes les saints. Mis à part pour Dieu. Ces ministères sont là pour votre perfectionnement. Mais pourquoi être perfectionné? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre. Ah, en vue de quoi? En vue de l'œuvre. Du ministère, de l'édification, du corps de Christ. C'est-à-dire de l'évangélisation. Parce que nous sommes perfectionnés en vue d'aller œuvrer pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire que le corps de Christ se développe. Lorsque nous allons en Afrique, à gauche, à droite, pour prêcher l'évangile, le corps de Christ se développe. C'est en vue de ça que nous devons être unis et perfectionnés. Par quoi? Par les ministères. Voilà pourquoi vous devez écouter. Voilà pourquoi vous devez croire, même si vous ne comprenez pas, et aller sur vos genoux pour comprendre. Et dans la lecture de la parole de Dieu. Ouh, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que je suis comme saoul, là. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis comme bourré. Pardonnez-moi le vocabulaire. Pour le perfectionnement des saints, ça a été donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez ce que je vous ai dit? L'unité de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. La parole de Dieu contient les saines doctrines. Il y en a qui disent, oh, vous êtes endoctriné. Oui, je suis endoctriné par la parole de Dieu. Il faut être endoctriné. Il faut avoir la saine doctrine. La Bible dit, à la fin des temps, les gens ne supportant plus la saine doctrine se donneront une foule de docteurs racontant des choses qui leur chatouillent les ailes. Eh bien, nous, c'est pas ça. Nous, ce que nous voulons, c'est la saine doctrine, la parole de Dieu, le vieil évangile, l'évangile d'autrefois, la parole de Dieu pratiquée par les premiers chrétiens. C'est ça que nous voulons. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Parce que si nous n'avons pas la saine, nous avons la fausse. Celle qui n'est pas dans la parole de Dieu. Alors je relis, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi les ministères ont été donnés, pour que nous parvenions à ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, par leur ruse dans des moyens de séduction. Vous pensez que je suis un esprit séducteur? C'est grave. Mais que, professant la vérité dans la charité, parce que voilà, on peut professer la vérité hors de l'amour. Ça donne quoi? Les légalistes. Nous ne voulons pas de ça. Le ministère a été correctement établi dans l'amour, pour l'amour, par l'amour. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, c'est-à-dire spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, c'est-à-dire de lui qui vit en vous, l'assistance, elle vient de lui au travers de vous et de moi, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le corps doit s'édifier lui-même dans la charité. Chacun doit s'édifier lui-même dans la charité. Méditez ce texte, méditez ce texte. Être unis dans la doctrine pour ça. En vue de ça. Pas pour dire, c'est nous qui avons la meilleure doctrine, nous avons plein d'évangiles, et puis pas vous, Être unis dans l'œuvre d'évangélisation des vivants. Je ne vous donnerai qu'un seul texte. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Hein? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et vous avez toute la liste. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Allez par tout le monde. C'est pas dit à quelques-uns, c'est dit à tous. Nous avons tous le ministère de la réconciliation. Pas de la condamnation, de la réconciliation. Alors allez. Allez. Il faut aller où? Dans votre famille. Et puis ensuite, à gauche, à droite, partout, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais allez, l'œuvre d'évangélisation pour l'édification du corps de Christ, pour que le corps de Christ soit édifié et qu'il arrive à la stature parfaite. Ensuite, l'œuvre de participation du rachat des morts. Frères et sœurs, premièrement, nous avons à nous occuper de nos familles. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand nous arriverons dans le royaume de Dieu, quand nous allons passer au travers du voile, que nous allons quitter ce corps, le voile c'est notre corps, quand nous allons quitter, sortir de notre corps, et que nous allons nous trouver sur l'autre rive, la Bible dit que ceux qui auront utilisé leur argent pour le salut des gens, les gens qui auront été sauvés au travers des possibilités qu'aura donné l'argent qu'ils ont donné, ces gens-là les accueilleront. Vous vous rappelez de la parabole? Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Hein? Et ils vous accueilleront, ces gens vous accueilleront parce que vous aurez pu participer au salut. Par exemple, quand vous donnez votre argent pour que je puisse aller à gauche, à droite, prêcher l'évangile, eh bien, des gens sont sauvés parce que vous avez donné l'argent. Parce que moi, je ne peux pas aller prêcher à gauche, à droite et faire toutes ces missions si je n'ai pas le moyen d'aller là-bas et de vivre là-bas. Donc, quand vous arriverez devant Dieu, eh bien, des gens viendront vers vous parce que c'est vous qui avez payé. Moi, j'ai fait aussi quelque chose. Donc, des gens viendront me dire merci, mais à vous aussi. Mais ça serait bien que non seulement ça soit votre argent, mais aussi votre personne. Bien sûr, vous allez me dire, c'est ma personne. Quand je donne de l'argent, si je donne le dixième de mon salaire, eh bien, c'est comme si je donnais le dixième de mon temps pour l'évangélisation. Vous avez raison, et c'est vrai. Mais maintenant, quel bonheur de voir les foules en face, de voir les gens en face, et de les voir se repentir, de les voir être guéris en face. Ça motive. Oui ou non, ceux qui sont allés? Vous savez que ça motive. Et on a envie d'y retourner encore, parce que c'est bon de participer à cette œuvre personnellement, pas seulement avec l'argent, mais réellement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réellement avec l'argent, mais c'est un plus d'y aller soi-même et de suer là-bas, sous le 45 degrés à l'ombre. On n'est pas obligé de rester à l'ombre. Hein. Quand vous arriverez dans le royaume de Dieu, ces gens vous accueilleront. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, que le Seigneur m'a montré. La première personne qui viendra vers moi dans le ciel, ça sera ma maman. Ça sera ma maman. Parce que c'est la première personne que j'ai emmenée au Seigneur. Et la deuxième personne qui viendra me dire merci, c'est mon papa, qui est mort sans connaître Jésus, mais qui a entendu prêcher l'évangile dans le séjour des morts, selon 1 Pierre 4:6, et pour qui j'ai été baptisé. Je me suis fait baptiser en tant que substitut de mon père, et il me remerciera pour cela. Parce que cela sera compté dans les livres d'Apocalypse, des livres seront ouverts, et là ça sera écrit, a été baptisé tant et tant. C'est pas moi qui ai été baptisé, c'est lui. Mais lui, dans le monde des esprits, ne peut pas être baptisé. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser pour les morts. parce que nous avons un corps et c'est un ordre donné dans l'Église. Premièrement, pour nos familles. Parce que n'oubliez pas, il y a un lien depuis Adam, une lignée depuis Adam. Maintenant, si mon père, dans le séjour des morts, refuse l'Évangile, je n'aurais fait qu'une chose, respecter la parole de Dieu dans l'amour pour Dieu et pour mon père. Ça ne me regarde pas s'il accepte ou s'il refuse, s'il est prédestiné ou pas au salut. Mais moi, je vous dis, je crois qu'il est sauvé. Parce que la Bible dit, l'amour croit tout. Alors, quand je vais quitter ce corps, les premières personnes que je verrai devant moi, c'est mon papa et ma maman qui se tiendront par la main, qui me diront, Michel, voilà, on y est tous. Et vous, que dira votre papa, que dira votre grand-père, que dira votre grand-mère, que dira votre arrière-grand-mère, que diront les sœurs de vos grands-mères et de vos grands-pères? Qu'est-ce qu'ils diront? Ils seront où? Et s'ils ont été sauvés parce qu'ils ont accepté l'Évangile dans le royaume des morts, est-ce qu'ils auront à leur compte le baptême correct? Je vous le dis, frères et sœurs, ils attendent, ils souhaitent dans cet endroit que vous accomplissiez l'ordonnance pour eux. Je vous le dis solennellement, frères et sœurs, l'œuvre de participation du rachat de nos morts, de nos familles, premièrement, c'est très important. C'est très important. Je vais vous donner deux petites choses que je n'ai jamais dit encore au sujet de ça. Et j'ai trouvé ça ce matin. Vous voyez, c'est écrit en rouge parce que je ne trouvais plus mon stylo bleu. Donc les dernières pages sont écrites en rouge. Est-ce que vous vous rappelez de la première européenne qui était sauvée? C'est une femme. Elle s'appelait Lydie. Acte 16, 15. On va le lire. Acte 16, 15. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce texte. On va déjà lire verset 14. L'une d'elles, c'était des femmes qui étaient réunies, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille. C'est elle qui a cru. Pourquoi c'est marqué avec sa famille? Moi, je ne crois pas que c'est sa famille vivante qui était baptisée là, mais c'est la famille des morts, ceux qui étaient déjà partis, ceux qui étaient décédés. L'apôtre a dû leur enseigner ça. Elle s'est fait baptiser, elle, mais aussi pour ses ancêtres. Du moins, ceux qu'elle pouvait connaître à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de registre dans les mairies ni dans les églises, donc elle devait peut-être connaître une trentaine de personnes décédées. En tout cas, elle et sa famille. Vous allez peut-être me dire, c'est une interprétation. Mettez-vous sur vos genoux. Un peu plus loin, c'est toujours sur le témoignage de deux personnes ou de deux écrits. Acte 16, 31. C'est l'histoire du geôlier. Rappelez, Paul et Silas étaient en prison et voilà qu'un tremblement de terre arrive et tous les prisonniers s'échappent et le geôlier veut se donner la mort. Et puis, Paul le prêche. Et l'autre dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois, il s'adresse à une personne, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si le geôlier croit, il va être sauvé, lui. Et sa famille? Oui, parce que lui, il a le pouvoir de participer au rachat de sa famille
de ceux qui sont décédés, de ceux qui ont déjà passé derrière le voile, de ceux qui ont déjà quitté le monde des vivants. Sinon, ça ne tient pas debout, ce verset. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ça va, c'est anti-biblique. Parce que le salut, c'est personnel. Oui, Michel, c'est une interprétation. D'accord, c'est une interprétation. Mais faites comme vous voulez. Ça m'est égal, je vous aime, même si vous ne croyez pas ça. Simplement, en tant que pasteur, je dois vous dire ces choses. Je dois vous dire ces choses. Parce que j'aurai des comptes à rendre à ce sujet-là, si je ne vous dis pas. Et j'espère être convaincant, Seigneur, j'espère être convaincant. Ils vous accueilleront. Ils vous accueilleront quand vous arriverez. Vous verrez des gens arriver vers vous. Vous direz, mais je ne vous ai jamais parlé de Jésus. Non, mais tu t'es fait baptiser pour moi. Et ça compte. Parce que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Ça ne veut pas dire que ceux pour qui nous n'aurons pas été baptisés ne seront pas sauvés. L'évangile est prêché aux morts. 1 Pierre 4, 6. Ou 2 Pierre 4, 6, je ne sais plus. 1 Pierre 4, 6. Afin qu'après avoir été jugés quant à la chair, ils puissent vivre selon l'esprit. Donc ils peuvent être sauvés, mais je dis, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et c'est en fonction de ce qu'ils auront fait qu'ils seront dans une maison ou dans une autre. Ce qu'ils auront fait, oui, sur la terre, du temps de leur vivant, ce qu'ils auront fait. Mais ce que vous faites à leur place, ça leur est compté. Vous comprenez ça? Donc, le lien de votre famille, c'est plus que j'aime mon papa, ma maman, ma grand-mère, mon grand-père, mon tonton, ma tata, mon frère, ma fille, ma sœur, et mes enfants, c'est plus que ça. C'est toute cette lignée jusqu'à Adam. Par-dedans, il y en a qui sont de la semence du serpent, mais ça ne nous regarde pas, on se fait baptiser pour tout ça. Et Dieu reconnaîtra les siens. Ça ne nous regarde pas. C'est un acte d'amour. Voilà pourquoi je vous dis le quatrième point, c'est que tout ça doit être scellé dans l'amour. Ça ne doit pas être seulement fait parce que je vous le dis, parce que c'est une doctrine biblique. Non, ça doit être fait par amour. C'est vrai que quand je me trouve, comme cet après-midi, on va certainement faire les baptêmes encore, je me trouve devant ce baptistère et que je dis au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Et que je plonge ce frère ou cette sœur dans les eaux du baptême 1000 fois dans l'après-midi ou même des fois plus, c'est vrai que ça peut paraître, c'est fait, vous n'avez pas le droit de juger, c'est fait dans l'amour, moi je le sais. Vos parents, vos grands-parents et tous ces gens vous accueilleront dans les lieux célestes. Et ça sera la continuité de l'amour. Il n'y aura pas de regrets. Mais il risque d'y avoir des regrets. Si vous n'êtes pas entré dans la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas entré dans la volonté de Dieu pour notre temps. Pour cette dernière dispensation. À qui Dieu a-t-il donné ça? Mes frères et sœurs. Pas dans les dénominations chrétiennes. Pas dans les dénominations chrétiennes. Ils ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Eh bien, c'est sorti de la bouche de Mamadou Karambéry. Pourquoi? Ça n'a pas été donné dans les dominations. Il m'a dit, parce que eux, s'ils le faisaient, ils le feraient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce que nous avons reçu le message de l'unité de Dieu et toutes ces choses que Dieu nous a données petit à petit auxquelles nous nous sommes soumis. Ça n'a pas été fait comme ça. Sur un coup de tête, c'est un cheminement. Mais est-ce que vous cheminez avec la colonne de feu? Est-ce que vous marchez avec la nuée? Est-ce que vous suivez? Rappelez-vous, je vous dis, maintenant on va passer plus loin. Et je vous le dis encore aujourd'hui, on va encore aller plus loin. On va encore aller plus loin. On va faire encore des choses plus grandes. J'aimerais bien que vous soyez avec moi pour le faire. Vraiment, j'aimerais que vous soyez avec moi. Je vous aime et je voudrais qu'on soit un dans l'Esprit de Dieu. Pour les choses spirituelles et pour les choses temporelles. Amen. Jésus, merci pour cet amour et pour cette puissance que tu me donnes pour prêcher ces choses, ce courage aussi, parce que je sais que Chaque fois que j'ai été clair, il y en a qui nous ont quittés. Je te demande, mon Dieu, que nous puissions rester bien unis et que nous puissions chercher et que le ciel qui est ouvert au-dessus de moi s'ouvre au-dessus de mes frères et sœurs et que ce ne soit pas seulement le monde d'Iram qui s'ouvre, mais qu'il y ait cette puissance de l'Esprit sur chacun et sur chacune pour que l'intelligence leur soit donnée. Comme cela a été fait pour Lydie, que son cœur a été ouvert pour qu'elle puisse comprendre ce que Paul disait. Je te prie que mes frères et sœurs aient le cœur ouvert pour comprendre, et même s'ils ne comprennent pas, qu'ils puissent croire comme des enfants, parce que c'est seulement à cette condition-là qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu, croire comme des gamins. Oui, il a dit, je crois. Et après, Seigneur, tu leur montreras, tu te chargeras de leur faire comprendre dans leur méditation afin qu'ils puissent avoir une ferme assurance. Mon Dieu, s'il n'y a pas ce désir d'abord de te suivre réellement sur ce chemin étroit, comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Seigneur Jésus, crée ce désir dans le cœur, c'est là ma prière. Que après avoir trouvé la porte, il ne s'arrête pas devant une porte ouverte, mais que il trouve le chemin qui est derrière la porte pour marcher sur ce chemin qui conduit jusque dans la vie éternelle. Mais c'est un chemin qui est étroit, qui est difficile, et on peut hésiter à prendre un tel chemin. Mais mon Dieu, je te prie de leur montrer que le chemin de l'autre côté, qui est large, qui est, eh bien, il mène à la perdition. Qu'ils ne s'arrêtent pas sur le pas de porte, mais qu'ils aillent plus loin. Que chacun, que personne, qu'aucun d'entre eux se perde, et que chacun puisse parvenir à cette unité, selon l'Esprit et selon la parole. Merci Seigneur Jésus, parce que les trois choses demeurent, le sang, l'eau et la parole. Et je te prie que cela forme ce ciment entre nous, l'amour. L'amour les uns pour les autres, l'amour pour toi, l'amour pour la saine doctrine, l'amour pour les œuvres pratiquées avec sincérité, spontanéité, sans murmure ni hésitation. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Je voudrais juste dire quelques mots, parce que je crois que Dieu nous parle, me parle. Je crois vraiment que ce que Michel nous dit vient de Dieu, directement du cœur de Dieu, directement du ciel, que c'est un homme, mais c'est un homme formidablement inspiré. Et je voudrais juste dire que c'est vrai que quand on l'écoute, quand on met en pratique ce qu'il dit, on voit le ciel s'ouvrir. Et moi, quand je l'ai dit à Philippe, il a été agréablement surpris quand j'ai vu Isabelle et Marie-Claire, et particulièrement Isabelle, témoigner de ce qu'elle avait vécu au Burkina, quand j'ai vu l'épanouissement qui se dégageait d'elle parce qu'elle avait fait la volonté de Dieu, écouté l'homme de Dieu, fait la volonté de Dieu, s'était donné pour vivre cela, à quel point elle était épanouie, non pas épanouie parce qu'elle avait passé un bon moment, un bon voyage touristique, mais parce qu'elle avait fait l'œuvre de Dieu, parce qu'elle avait fait sa volonté. Eh ben, c'était fort, c'était beau, c'était émouvant, mais c'était pas émouvant. Mais même Marie-Claire, elle était émouvante, pas d'une manière charnelle, mais il y avait une émotion spirituelle qui se dégageait d'elle. Et c'était beau, c'était fort. Et je voulais, il y a plein de choses que j'aurais envie de dire, mais il y a aussi, quand la révélation qui se manifeste peu à peu au travers de Michel, quand le ciel s'ouvre, il y a 20 ans, Philippe s'en rappelle probablement pas, mais moi je m'en rappelle, on était dans le métro il y a 20 ans, et moi j'étais jeune convertie, dans mon enthousiasme de jeune convertie, j'avais lu, et tu, justement quand il parlait de ce geôlier, et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai sorti ça à Philippe, il me dit, mais non, c'est dans le contexte, ce contexte-là qu'il il lui avait dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais c'était sans compter qu'il fallait 20 ans pour que soit révélé à Michel justement ce qu'il vient de nous dire, tu seras sauvé, toi et ta famille, si tu te baptises pour eux. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est une parole qui nous éclaire. Et c'était il y a 20 ans, parce que Philippe ne savait pas, que je ne savais pas, mais nous avons continué à marcher ensemble et aujourd'hui nous savons l'un et l'autre maintenant que cette parole était plus profonde qu'elle n'y paraissait et que c'était pas un moment donné mais c'était pour l'éternité que cette parole était donnée. Et je voudrais dire une autre chose concernant l'unité qu'il est important d'avoir au milieu de nous et que c'est vrai que quand nous avons des moments de murmure vis-à-vis d'un frère et d'une sœur, et moi je voudrais confesser parce que j'ai dit des paroles négatives dernièrement devant à des frères, à des sœurs concernant Michou. Et Michou, c'est vrai que ce n'est pas n'importe qui, c'est une sœur, mais c'est une sœur qui a un ministère dans la communauté. Et que, en même temps que je les disais, j'ai dit, mais je la salis, c'est pas beau, je fais pas l'œuvre de Dieu quand je fais ça, c'est clair. Tout de suite, j'étais reprise dans mon cœur. Et c'est vrai que je demande pardon à Michou. Et c'est vrai que s'il est vrai que parfois il faut fournir des efforts pour aimer un frère ou une sœur, je veux confesser, je le confesse de tout mon cœur, que d'aimer Michou, ça ne me demande pas un effort. Je l'aime vraiment. Pas parce qu'il faut l'aimer, parce que c'est ma sœur, parce qu'elle a le ministère, elle porte le ministère avec Michel, mais que je l'aime, mais vraiment, sans que ça me demande de l'effort. De lui pardonner, ça ne me demande pas un effort fantastique. Je l'aime vraiment. Et c'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça dans notre vie. D'aimer vraiment. Pas que ça demande parce qu'il faut obéir, mais aussi parce qu'il faut obéir. Et quand on obéit, eh ben Dieu nous donne ce plus. Ben, que ça ne demande pas tant d'efforts que ça pour aimer. Et c'est vrai aussi, je voulais rajouter, quand Marie-Claire et Isabelle ont parlé, quand Philippe aussi nous a parlé vendredi, j'ai toujours eu cet appel. Dès la première fois, quand Michel envoyait des mails qui me faisaient pleurer, des mails d'Afrique, ses premiers départs en Afrique, au Burkina, ça me faisait pleurer parce que je me suis dit, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est beau, c'est fort. Et moi, je me suis très vite sentie appelée à aller au Burkina. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours mis des barrières financières et tout. Et même une païenne, une dame qui cherche Dieu, m'a dit, mais si, tu vas venir et je t'invite et tu vas venir au Burkina. Et j'ai dit, oui, mais bon. oui, c'est vrai, parce que c'est faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est vrai aussi que Dieu a permis, grâce au travail de mon mari qui fait un travail scrupuleux, un travail consciencieux, il progresse dans son travail, et ça me permet aussi de partir avec ma famille, mais nous partons, et j'ai cette conscience-là avec ce ministère, que nous sommes des témoins, mais c'est très bizarre parce que c'est vrai que mon mari travaille dans la fondation d'Auteuil, qui est une œuvre catholique pourtant, mais c'est là où il y a des enfants qui souffrent parce qu'ils sont seuls, et puis il y a des animateurs jeunes, moins jeunes, il y a des femmes de service, des hommes de service qui sont des gens tout simples, et ils ont tous une souffrance. Et puis moi, grâce à mon mari, j'ai cette disponibilité d'être à leur écoute, et c'est vrai, il l'a confessé au responsable de cette association, que j'avais ce ministère pastoral, mais pourquoi ? Parce que je suis disponible, grâce au travail de mon mari, pour apporter aux enfants qui souffrent, aux femmes qui souffrent, aux hommes qui souffrent, tout simplement l'évangile de la réconciliation, que Jésus est mort pour eux sur la croix, que Jésus est mort pour leurs souffrances, pour leurs péchés, pour les péchés de leurs parents qui leur font du mal, pour leur... Et tout simplement, un ministère tout simple de réconciliation, c'est vrai que nous pouvons tous l'avoir, ce ministère de réconciliation, et grâce à mon mari, je peux aller dans le sud de la France, dans l'ouest de la France, et partir avec tous ces gens qui ont un paquet énorme de souffrances, et que c'est vrai que nous pouvons l'exercer au Burkina, nous pouvons l'exercer partout en France, parce que c'est vrai, malgré tout, en France, il y a des gens qui souffrent. Et puis quand nous sommes proches d'eux, quand nous aussi nous les aidons, quand nous vivons des choses avec eux, eh ben l'évangile passe. Et ça va au-delà des religions. Et même avec leur religion, nous pouvons les aimer et l'évangile passe. Que simplement Jésus est mort pour eux sur la croix et ça passe. Ça passe et ça bouleverse et ça... Je ne sais pas quelle portée ça a. C'est vrai que je le verrai dans le ciel, cette portée que nous avons de témoigner, de nous faire baptiser pour ceux qui sont morts et que nous voyons pas forcément sur la terre. Et je voudrais juste appuyer ce que Michel nous a prêché parce que c'est beau, c'est les choses du ciel. Et que quand on les fait, quand on les vit, mais on est porté. Il y a une joie immense qui se dégage de nous parce qu'on est porté. Philippe, quand il va au Burkina, qu'il apporte toutes ces choses, il dit, mais oui, c'est vrai qu'il n'y a aucun confort, je suis dans une case. Oh, puis ça m'est égal parce que je suis porté par ce que j'apporte et que j'ai conscience que ça a une portée aussi éternelle. Je suis portée par mon frère Nicolas qui est tellement rempli de l'esprit qu'il me porte aussi et que je vis cela avec bonheur alors que c'est vrai quand on fait la volonté de Dieu, quand on ne regarde pas aux choses de la terre que nos frères et sœurs nous disent, nous font, les petits détails, et quand on dépasse cela, quand on voit l'Esprit de Dieu dans notre frère et notre sœur, et pas seulement les moments où ils peuvent nous faire des réflexions qui ne nous plaisent pas, ou qui ont un comportement qui ne nous plaît pas, quand jamais on oublie que c'est l'Esprit de Dieu qui est dans notre frère et dans notre sœur, et qu'on y croit. Moi, je crois que chacun d'entre vous ici, vous êtes mon frère, ma sœur, et que vous irez au ciel, que vous avez plus d'importance que moi quand j'ai conscience de ce sacré. Oui, je crois, Michel, un jour, il nous avait dit, ayez conscience que vous, ici, ce que vous vivez, ben, c'est sacré. Quand nous avons cette conscience du sacré, de l'homme de Dieu, de nos frères, de nos sœurs, eh ben, on est porté, hein. Vraiment porté par l'Esprit de Dieu, et c'est plus un effort que d'obéir à Dieu, à sa parole, au ministère, aux détails de la vie quotidienne, au quotidien, parce qu'on a ce conscience du sacré, que notre quotidien est sacré, que nos frères et sœurs sont sacrés, chaque frère et sœur est précieux. Si on n'oublie pas ça, eh ben, c'est beau, c'est fort et c'est profond. Chaque jour est un jour profond, chaque minute est une minute profonde. Et je le dis d'ailleurs aussi quand je témoigne, je dis, mais moi j'ai conscience que ce que je vis a une portée éternelle, que c'est pas pour tout de suite, c'est aussi pour tout de suite maintenant le bonheur, mais aussi éternel. Et je voulais juste dire cela parce que c'est vrai que ce que Michel dit est tellement beau, tellement fort, puis c'est un témoignage de tellement d'années. Et c'est vrai que je dois confesser aussi que oh, pourquoi Michel est si souvent parti? Parce que quand il est là, il nous rapproche toujours plus du sacré. Mais oh, avec tout ce qu'il nous a donné, à nous de le conserver, ce sacré, et de le faire croître. Parce que c'est vrai que s'il est loin, tout ce que nous avons reçu, mais c'est énorme. Tous ces 20 ans où il nous a prêché tous les jours, mais c'est énorme. Et il nous a éclairé tellement et tellement qu'il peut aussi éclairer le monde. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il a fait aux États-Unis, peut-être que ça ne me regarde pas, mais il a apporté tout ce sacré qu'il a avec lui. Il est aussi le ciel ouvert pour tous ces hommes et ces femmes qu'il a rencontrés, des hommes riches, aisés, comme aussi des hommes extrêmement pauvres au Burkina. Dieu lui a donné de pouvoir vivre ces extrêmes avec autant de consécration. Et moi, je sais pas ce qu'il a fait aux États-Unis, mais je sais que ce qu'il a fait, il a été lumière et qu'il a apporté le sacré, qu'il a apporté la lumière là où il était. Et c'est vrai qu'il lui donnait de vivre des extrêmes, parce qu'il s'est aussi bien parlé avec son cœur à des hommes importants qu'à des hommes et des femmes toutes simples, tout simples. Et je voulais juste dire une chose, et c'est vrai que jamais moi je n'oublie Madeleine, sa maman. C'est vrai que sa maman, tout le temps où elle était avec nous, où elle était en pleine conscience, c'était une femme qui avait une douceur, qui était toujours remplie de l'Esprit de Dieu. Et cette femme, maintenant, qui est loin, eh ben, c'est vrai que nous n'avons aucune communication avec les morts, mais nous pouvons nous rappeler des vivants et de l'exemple qu'ils ont été au milieu de nous. Et mamie Madeleine, mamie, parce que pour moi, ça restera la mamie de la communauté, qui, je crois, inspire ma maman, qui, je crois, inspire Rachel, c'était une mamie qui était un exemple de foi, d'amour, de douceur du Saint-Esprit. Et mamie Madeleine, j'en ai parlé encore dernièrement à Christian, mais elle m'inspire encore. Son esprit est encore là, parce que c'était une femme qui était tellement remplie d'amour, de pardon, que même absente, parce que finalement elle est absente, nous allons la retrouver, nous aussi avec quelle joie nous allons la retrouver, bah, son esprit parle encore, son esprit est là, et moi je l'oublie pas, je pense chaque jour à elle, parce que c'était une femme qui était tellement inspirante. Et une dernière chose, c'est vrai que mon mari et moi, il nous envoie au Servoz, à la Roche-sur-Yon, mais je pense aussi à nos adolescents et nos adolescentes qui sont tous remplis de l'Esprit de Dieu. Je pense à Lydie. Je sais que là, à Orléans, elle est un témoignage fort et puissant. Ça, je le crois. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas qui elle voit. Je ne sais pas à qui elle parle. Mais je sais qu'elle a un témoignage fort. Je sais que Priscille Apau, elle est à l'autre bout de la France. Je sais qu'elle a un témoignage fort et puissant. Esther, c'est pareil, à Paris. Je sais qu'Olivier Adreux, je suis sûre qu'il a un témoignage fort et puissant parce que c'est aussi un frère rempli de l'esprit. Et je sais que tous ceux, même nos adolescents qui sont loin, j'ai réalisé que dans le monde, que pour Catherine et que pour Philippe, de voir leur jeune adolescent même les quitter. Alors que dans le monde, hein, c'est vrai que ils quittent leurs parents quand ils vont faire, quand ils vont, même pas quand ils se marient, quand ils vont avec leur compagnon. Et j'ai un mot, allez, je dis compagnon, puisqu'ils se marient même plus ou très peu. Et ben, ils quittent leurs parents. Vous vivez déjà ça. Vos enfants vous quittent. Ils vous quittent même encore plus jeune qu'ils quittaient avant leur père. Mais ils vous quittent pour faire leurs études, pour être brillants là où ils vont, mais en même temps, parce que Dieu veut qu'ils soient un témoignage, ce n'est pas seulement terrestre, parce qu'ils peuvent déjà être un témoignage, ils ont tellement été enseignés, ils ont tellement reçu, qu'ils peuvent déjà donner au monde. Et je suis sûre que si Priscille est envoyée aussi loin à Pau, que Lydie, si jeune, elle est envoyée aussi loin à Orléans, c'est parce que déjà elle est forte, et qu'elle peut être un témoignage puissant dans le monde. Partez par tout le monde. Et maintenant, déjà, nos adolescents, ils sont ce témoignage fort et puissant dans le monde. Ils partent par tout le monde à porter la bonne nouvelle du salut. Et même nos adolescents, déjà. Tellement le ministère de Michel est fort et puissant, nos adolescents ont déjà cette force pour non seulement ne pas être souillés par le monde, mais être la lumière du monde. Voilà, je voulais pas oublier de dire toutes ces choses-là qui me venaient quand Michel prêchait, parce que son ministère est d'une telle puissance que même nos jeunes, même nos enfants sont déjà des témoignages, déjà des lumières. Et c'est formidable. C'est nous sommes peut-être peu, mais quelle lumière. Voilà, je voulais dire.
C'est